Smart City. Alors nous, ça fait déjà 7 ans qu'on est là et ça fait 15 ans sur Boulogne et on a choisi de venir ici par rapport aux enfants. Parce que beaucoup de parcs, très de trottoirs très larges et du coup au niveau des écoles, c'est top.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions. Et aujourd'hui, on va se pencher sur une notion qu'on entend très souvent mais qui reste assez floue, celle de Smart Cities. Des villes connectées, ok, en harmonie avec l'environnement, d'accord, mais quelle est la définition exacte d'une Smart City? Comment le concept a évolué depuis sa création? On va se poser la question, même si pour Quentin, lui, qui vous l'aurez noté, remet de plus en plus souvent en cause l'intérêt de nos thématiques, lui qui avait boudé pendant toute l'émission sur le pet parenting, allant jusqu'à empoisonner le chien de l'invité, colonel, en lui filant en douce sous la table des bonbons Haribo.
Non, mais il va bien.
Quentin, lui, donc, oui. Devenu objecteur de conscience de Zoom Zoom Zen, estime pour sa part que les Smart Cities, c'est de l'enfumage. De la branlette de bobo parisien, pour reprendre ses termes exacts. Pour lui, une ville intelligente n'est pas une ville ultra connectée, c'est une ville à taille humaine où les commerçants acceptent le cash et savent encore faire la monnaie sur un billet de 200. Une ville où les vélos cargo moustaches n'ont pas encore défiguré le parc automobile et où les jeunes peuvent se sensibiliser au beau dans un lieu culturel fédérateur comme le Bayocos d'Alençon. La ville intelligente selon Quentin lui. Alors à quoi doit ressembler une Smart City? À quoi ressemble celle qui existe déjà de Yokohama à Alençon? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Vincent Calbeau.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Vincent, vous êtes architecte et designer, vous avez remporté de nombreux prix pour vos réalisations qui respectent l'environnement, voire même qui limitent le dérèglement climatique avec des immeubles végétalisés. Vous venez d'ailleurs de sortir le livre Ville 2050, 10 actions d'architecture climatique pour un futur désirable aux éditions Erol. Et c'est vous enfin qui êtes le promoteur du projet de végétalisation de Paris dans le cadre du programme Paris Smart City 2050. On va y venir. Juste le temps de vous présenter deux journalistes très smart, eux aussi. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Déjà, est-ce que vous vous souvenez de Vincent?
Ah bah bien oui. Sûr, évidemment.
J'étais allé à Saint-Malo grâce à vous. Pour les cités flottantes, ça, vous étiez venu pour les cités flottantes.
C'est bien cela.
Je sens de la spontanéité, c'est validé. Je pose la question parce que parfois, vous vous dites enchanté à des gens qu'on a déjà reçus.
On a eu 439 invités quand même.
On embrasse le docteur Zetoun, que vous remettrez peut-être s'il revient une sixième fois.
Pardon.
Manon, à défaut d'être physionomiste, vous êtes perfectionniste puisque chaque après-midi, vous nous aidez à aller encore plus loin en nous présentant la personne à suivre.
Un urbaniste américain engagé contre les smart cities. Il en a même fait un livre manifeste où il déplore l'utilisation de la tech dans l'environnement urbain.
Face à vous, Vincent, lui, il se souvient très bien de vous. Il avait même pris votre 06 car, grisé par les audiences, il cherche actuellement un terrain en Toscane pour faire construire. Or, rien de dispendieux, 600 mètres carrés avec une infinite poule du côté de Montepulciano. Sa problématique, c'est que l'héliport se fond bien dans le jardin paysager. Il se disait que peut-être vous sauriez inventer un héliport végétal. Je vous laisse cogiter. En attendant, Quentin, racontez-nous, les gens, ils sont sensibles ou pas à cette notion de Smart City?
Très bon vin, le Montepulciano.
À côté de Montalcino.
Je me suis rendu dans ce qui pourrait s'apparenter à une Smart City près de Paris, le quartier du Trapèze à Boulogne-Billancourt, immeuble futuriste, végétalisé, en verre, en bois. J'ai discuté avec celles et ceux qui vivent dans un petit bout de la ville du futur.
Vers 16h30, nous jouerons non pas avec les Smart Cities, mais avec nos bonnes vieilles Dumb Cities. Elles ne sont pas connectées, mais elles ont du charme, comme vous le verrez dans le Zoom Zoom Test. Juste avant 17h, nous serons rejoints aujourd'hui par Lilia Benchaban. Mais d'abord, Vincent Calbeau, est-ce qu'on peut construire en masse tout en protégeant l'environnement?
C'est le but de toute ma génération d'architectes, de construire mieux avec moins. Pourquoi? Eh bien, c'est écrit sur la couverture du livre « Ville 2050 » parce que nous vivons actuellement un double emballement. Moi, je suis né en 1977. À l'époque, on était 4,5 milliards d'êtres humains sur Terre. Et quand j'aurai 73 ans, en 2050, la population mondiale aura plus que doublé. Or, depuis la COP21, on fait tout pour réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré. 2023, 2024, les deux années les plus chaudes jamais enregistrées, et on vient de nous annoncer plus 3,2 degrés d'ici la fin du siècle. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix. On doit construire des villes qui rapatrient le végétal, des villes construites en matériaux naturels, des villes plus inclusives, plus solidaires, qui prouvent que la transition écologique est aujourd'hui possible en alliant le meilleur du low-tech et le le meilleur du high-tech.
Et regardez Quentin, il sait faire les héliports. Regardez,
je vois,
l'héliport, il est en haut, si vous nous suivez en vidéo.
Sur
en
la couverture
haut,
du livre.
Sur le livre, c'est magnifique, hein, il est bien intégré l'héliport. Là, on le voit.
Alors
pas,
en fait, sur cette tour, ce n'est pas un héliport, c'est
comment
une station de drone pour les livraisons aériennes qui existent déjà à Taïwan.
Ah d'accord, c'est pas pour les hélicos.
H comme drone.
Exactement, en taïwanais.
En bout de table, un déçu de l'urbanisme. Au tournant des années 2000, alors qu'il rédigeait les statuts d'une société Video Tomorrow, qui devait, je le cite, faire mordre la poussière à Vidéo Futur, il avait prophétisé une smart city où il y aurait plein de pizzerias et de distributeurs de DVD. Jamais il n'aurait pu imaginer que 25 ans plus tard, il n'y aurait plus un seul distributeur de DVD, mais en revanche des distributeurs de pizza. Pauvre France, écrit-il souvent sous les postes de Pascal Pro. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors Cyril, dites-nous, parce que vous, ça vous connaît, les smart cities.
Oui.
D'où ça sort ?
Eh bien, notamment du président Clinton. Enfin, à ce moment-là, de l'ex-président Clinton. C'est lui qui, en 2005, utilise pour la première fois le terme « smart cities ». La légende veut qu'il ait soufflé le mot à John Chambers, qui était alors le patron de l'entreprise Cisco. Cisco, c'est un géant américain de l'informatique, avec un autre géant du secteur, IBM. Ils vont être les fers de lance de ces projets de villes intelligentes. IBM, en fait, arrivera un peu plus tard, pour être exact, en 2008. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, IBM utilise la notion de « smarter cities », donc de villes plus intelligentes, étant présupposé qu'il y avait déjà des villes intelligentes.
Et c'était le cas ?
Pas à proprement parler, mais il existait une sorte de labo, pas aux États-Unis, ici en Europe, pas en Hollande, mais aux Pays-Bas, à Amsterdam. Le 15 janvier 1994, la ville inaugure son projet Digital City. L'idée, permettre à ses habitants d'accéder à Internet. Ça peut vous paraître comme la préhistoire, mais c'était il y a 30 ans déjà, et je peux vous dire qu'on était encore loin, évidemment, du haut débit et de la propagation des fake news sur TikTok. Parce que, tout simplement, on n'avait pas encore Internet. Amsterdam fait figure de pionnière en la matière et à ce titre, elle est souvent présentée comme un prémisse aux villes intelligentes dont on parle aujourd'hui. Puis sont arrivés IBM et Cisco et les millions de dollars investis au Japon. En 2010, la ville de Yokohama a été présentée comme un projet de Smart City. Et l'année suivante, 2011 donc, à Barcelone, 6000 visiteurs venus de 50 pays assistent au Smart City Expo World Congress de Barcelone, un congrès devenu annuel depuis. Alors, qu'est-ce que ça change qu'une ville soit intelligente ? Qui la rend intelligente ? Qui contrôle qu'elle l'est vraiment ? Et à quoi ça sert qu'elle soit smart, la city ? Est-ce que c'est aussi un risque pour nos libertés individuelles ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril pour ce doux assort réalisé en pleine digestion d'un Big Mac, ce qui n'est jamais facile.
Un petit chat dans la gorge.
Même pour les plus grands professionnels. Vincent Calvo, je rappelle que vous êtes architecte dans l'avant-propos de votre livre « Ville 2050 ». Vous dites qu'il faut réconcilier la construction et le vivant, la technologie et l'environnement, l'individu et le climat. Est-ce que ça, c'est une bonne définition de la Smart City ?
La meilleure définition des Smart City, elle vient de William Shakespeare, qui n'a pas connu la Smart City, qui disait « L'intelligence d'une ville, c'est d'abord celle de ses habitants ». Et aujourd'hui, étant donné qu'on est confronté à secouer la trousse à outils de l'architecture et de l'urbanisme et à trouver des solutions, eh bien, on allie le meilleur de l'ingénierie développée par les hommes, le meilleur de l'ingénierie développée par la nature, qu'on appelle le biomimétisme, et le meilleur du digital, qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. En fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en pratique la théorie de Jeremy Rifkin, qui a annoncé la troisième grande révolution industrielle, qui, par la conjonction des énergies renouvelables et des technologies de l'information et de la communication, propose une décentralisation énergétique, où chaque bâtiment produit sa propre énergie et transforme ses déchets en ressources.
Et ça, alors dans vos livres, il y a toujours, on vous avait reçu dans une autre émission ici, sur les cités flottantes, vous inventez des bâtiments absolument futuristes, absolument magnifiques, végétalisés, mais est-ce que cette transformation du bâti, est-ce que ça peut être une transformation justement et pas forcément une création. Est-ce qu'on peut prendre des vieux immeubles et en faire quelque chose de smart ?
C'est sûrement quand on rénove le patrimoine, qu'on le métamorphose, comme on aime bien dire, qu'on rend finalement notre patrimoine existant vraiment smart. C'est ce qu'on fait par exemple avec le projet de métamorphose des thermes nationaux à Aix-les-Bains. C'est un bâtiment de 50 000 m² où on vient finalement construire une greffe urbaine sous forme de deux forêts verticales qui vont produire l'énergie dont le bâtiment historique a besoin et qui va permettre finalement de l'isoler thermiquement, ensuite de construire avec des matériaux biosourcés et d'intégrer les énergies renouvelables. Et finalement, ce type de rénovation urbaine, eh bien, elle permet tout simplement de lutter contre l'étalement urbain à l'horizontale et contre l'artificialisation des sols.
Il y a des exemples de villes de demain qui existent déjà ?
Et, effectivement, il y a des grandes villes prototypes. Il faut savoir, par exemple, qu'en France, finalement, toutes les villes nouvelles qu'on appelle aujourd'hui la banlieue étaient des prototypes de villes d'après-guerre. Aujourd'hui, les deux grandes villes prototypes sont la ville de Masdar, au Moyen-Orient, et la ville de Songdo, en Corée du Sud. Et ce sont des villes où, effectivement, tous les architectes et les urbanistes ont mêlé le meilleur du low-tech, c'est-à-dire construire le plus sobrement possible avec des matériaux naturels pour baisser notre empreinte carbone. Et ils ont allié ça avec du high-tech, c'est-à-dire avec des capteurs pour faire en sorte d'optimiser le chauffage, l'éclairage urbain et finalement proposer une écologie accessible à tous. Et c'est le message du livre de se dire on ne veut plus une écologie punitive, on veut une écologie désirable qui est accessible au plus grand nombre.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
On poursuit notre exploration des smart cities, les villes intelligentes, avec notre invité, l'architecte Vincent Calbeau, auteur de Ville 2050, qui vient de sortir aux éditions Erol, qui nous donne déjà un avant-goût du futur. Vous citiez tout à l'heure deux villes qui sont prototypiques, emblématiques de ces smart cities, de ce que sera la ville de demain. Est-ce qu'on peut développer un petit peu pour comprendre en quoi elles sont différentes ?
Donc, je peux commencer par Masdar. C'est une ville dont le plan d'urbanisme et la plupart des bâtiments ont été construits par Norman Foster, donc l'une des plus grandes agences d'architecture au monde, spécialisée dans l'éco-engineering, c'est-à-dire le fait de dessiner des bâtiments de façon bioclimatique, en respectant par exemple la course du soleil, en respectant l'axe des vents dominants et en utilisant un maximum de matériaux qui sont déjà disponibles dans un écosystème local. Le but finalement d'avoir une ville smart, c'est une ville qui fait vivre son économie locale, c'est une ville qui fait revivre ses artisans et qui permet d'offrir de la proximité aux habitants, c'est-à-dire de rapprocher les distances entre son lieu de travail, son lieu de vie privée, entre ses loisirs, pour finalement avoir des villes qui soient très peu énergivores.
Et surtout peut-être sans voiture. Est-ce que la place de la voiture a changé dans ces nouvelles villes, dans ces villes du futur ?
Alors complètement. Aujourd'hui, on essaye finalement de se rendre beaucoup moins addict à la voiture. Parce que durant les années 60, on a construit la ville de façon monofonctionnelle. Par exemple, à Paris, le quartier de la Défense avec que des bureaux, le Paris intramuros voué à la gentrification et les populations moins aisées en dehors. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est créer des quartiers les plus multiculturels et multifonctionnels possibles. Et donc pour cela, on développe la mobilité douce basée sur le piéton et l'électromobilité partagée.
Mais ça veut dire aussi que Paris, par exemple, les vieilles villes ne pourront pas devenir des smart cities. Il faut
si, en fait,
de zéro.
Paris aujourd'hui est déjà une fabuleuse smart city, car finalement, elle prend le meilleur de son patrimoine, qu'elle régénère, qu'elle transporte à travers le 21e siècle, à travers des greffes architecturales qui permettent de produire l'énergie, par exemple, pour les bâtiments haussmanniens. Elle rapatrie l'agriculture urbaine, et avec le nouveau PLU, le plan local d'urbanisme bioclimatique, qui va rentrer en vigueur début 2025 si il est choisi durant le prochain Conseil de Paris, on va véritablement avoir une ville qui va se révégétaliser, une ville qui va être construite principalement en bois et qui va recréer beaucoup de liens entre les habitants en leur proposant des grandes économies d'énergie dans leur habitat notamment.
Le problème avec Paris, c'est qu'on a les grands axes. Qu'est-ce qu'on va faire des grands boulevards haussmanniens ?
Les grands boulevards, par exemple, moi j'habite pas loin de l'avenue Daumesnil, eh bien ils sont en train de végétaliser, ils sont en train d'élargir les trottoirs, ils sont en train de débitumer finalement ces grandes avenues pour les rendre à la nature, à la biodiversité. Et du coup, eh bien, on roule moins vite, il y a moins de pollution de CO2, il y a moins de pollution sonore et tout le monde s'y retrouve gagnant.
Quand on parle de Smart City, on pense tout de suite aussi intelligence artificielle. Vous racontez dans votre livre comment l'intelligence artificielle vous a aidé à construire des bâtiments assez révolutionnaires, notamment la tour qui est en couverture du livre, un gratte-ciel de Taipei à Taïwan. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle vous a permis de faire ?
Alors finalement, l'intelligence artificielle pour nous, c'est pas une révolution. C'est une continuité dans l'évolution des outils technologiques. Par exemple, moi je fais partie de la nouvelle génération d'architectes, j'étais diplômé en juin 2000 et on était les premiers à modéliser des bâtiments en 3D et après on les coupait comme un saucisson géant pour générer des plans. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle du BIM, du Building Information Modeling. C'est-à-dire qu'on a modélisé non seulement le bâtiment mais aussi tous les réseaux d'électricité, de plomberie et toute la structure. Comme ça, durant l'exploitation du bâtiment, on sait plus facilement changer les pièces et donc ainsi on augmente l'indice de réparabilité comme pour de l'électroménager. Et ensuite, l'IA, elle nous permet de traiter beaucoup de données, notamment des données climatiques et géologiques. Par exemple, on peut simuler la course du soleil, simuler l'axe des vents dominants pour avoir par exemple une tour qui tourne de 90 degrés pour optimiser l'éclairage et la ventilation naturelle à l'intérieur du bâtiment et donc économiser jusqu'à 70% du CO2 émis durant son exploitation.
Mais vous lui faites une confiance aveugle à l'intelligence artificielle ?
En fait, ce n'est pas une intelligence, pour moi, c'est un outil supplémentaire qui nous permet toujours de maîtriser un plus grand nombre de données et surtout qui crée des nouveaux emplois. Aujourd'hui, par exemple, on a des crypto-architectes, c'est-à-dire c'est des architectes qui ne dessinent plus à la main, qui ne dessinent plus des plans vectoriels, mais qui scriptent des lignes de code pour intégrer les données dans la conception bioclimatique du bâti.
Vincent, je suis sûr que vous avez eu le temps certainement de griffonner un petit croquis pour la future villa de Quentin en Toscane, mais vous lui montrerez après parce que sinon ça va le déconcentrer.
Quentin, il me reste un bout de Big Mac encore.
Il me reste un bout. Aussi. Moi, c'était des nuggets.
Ah.
J'avais pris l'autre menu. Mais d'ailleurs, je tiens à signaler que j'ai pas eu tous les nuggets que je devais avoir et que certains dans l'équipe,
vous avez juste pas cliqué sur le bon truc sur la commande.
Je ne pense pas, Manon, et vos accusations sont très très graves. Quentin, vous avez franchi le périph' pour parler de villes intelligentes, en l'occurrence Boulogne-Billancourt.
Pour découvrir le quartier du Trapèze. Petite explication, vous vous souvenez des usines Renault. Il y avait là, à Boulogne-Billancourt, l'un des sites de production les plus importants du XXe siècle. La production s'arrête en 92, destruction des usines au début des années 2000. Et depuis, ce quartier futuriste, immeubles en verre, architecture moderne, tours végétales, le tout est sorti de terre jusqu'en 2018. Cet écoquartier a la forme d'un trapèze, d'où son nom, J'arrête ce commerçant.
Smart City.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
La voiture, la smart.
Oui, ce pot de yaourt que tous les patrons se sont offerts pour se garer n'importe comment pendant des années. Voilà, je vois bien à qui j'ai affaire. Bon, smart ou pas smart, ce quartier, il le connaît bien.
J'habite à Boulogne, en fait. Je suis boulogne depuis toujours. J'ai fait mes études et j'y habite. Et donc, forcément, on a vu la transformation de ce quartier, anciennement usine, qui se passe en mixité commerce, bureau et habitation. Après, l'idée était bonne, hein, mixer du bureau, de l'habitation, du commerce, du tertiaire, c'était... Je pense que c'était pertinent, mais bon, finalement, on se rend compte que ça ne marche pas forcément.
Et il parle des bureaux désertés, le télétravail qui a tué les grands open space, une partie de son activité forcément. Je regarde autour de nous, et ce bâtiment futuriste quand même, moi je le trouve pas mal.
Là, on est au-dessus d'un restaurant, et ça, c'est l'immeuble Naos. Et ça, c'est quelque chose qui a été réussi, parce qu'il y a un mélange de bois, d'une façade un peu lisse, comme ça. C'est un beau bâtiment, ouais. C'est un beau bâtiment. Après, les bâtiments un peu futuristes, à mon avis, éco, ils ont ce qu'on appelle des éco-quartiers. Donc là, on voit des façades de l'autre côté avec du carrelage en façade. Et si vous faites le tour de ces immeubles-là, bon, il y a la moitié qui tombe. Non, c'est pas beau. Mais il y a du bon, mais il y a du pas bon.
Alors, est-ce qu'on est allé trop vite au début des années 2010 ? Pour lui, on a surtout du retard.
Où le futur, on le voit vraiment là-bas. Je pense qu'en Corée du Sud, ils sont très avant-gardistes. Le Japon aussi, ce genre de pays-là. Bon, on est clairement en retard, quoi. Voilà, c'est pas.
Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer là ?
Quoi, pour le quartier ? Ouais. Là, il faudrait raser, recommencer peut-être.
Bon, il n'est pas très très tendre.
Ça, c'est pas très écolo.
Ouais. Mais il a le droit de le dire. Cette maman débarque devant moi, un enfant dans chaque main. Ils sortent d'une supérette qui fait l'angle.
Bonjour.
Est-ce que je peux demander votre prénom ?
Aurélia. Là, du coup, on va récupérer la trottinette et on va rentrer.
Vous habitez dans le coin ?
Ouais, j'habite juste derrière.
Je lui demande quand est-ce qu'ils sont arrivés dans ce quartier aux allures de ville du futur ?
Alors, nous, ça fait déjà 7 ans qu'on est là et ça fait 15 ans sur Boulogne. Et on a choisi de venir ici par rapport aux enfants. Parce que beaucoup de parcs, très de trottoirs très larges. Et du coup, au niveau des écoles, c'est top.
Vous étiez venu en repérage ?
Ouais. J'habitais avant à Marcel-Samba. Et du coup, trop de monde, trop de tout. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de s'éloigner un peu du centre-ville et de se mettre un peu plus au vert.
Se mettre au vert, à la ville, voilà une démarche intéressante. Ce qui fonctionne à ses yeux, c'est l'architecture, pensée pour les piétons, les trottoirs larges, la sécurité pour les enfants, le parc au milieu. Elle me parle de son logement, en lui-même, moderne, 70 mètres carrés.
Mais du coup, immeuble récent, donc voilà, bonne acoustique, on est vraiment bien, ouais.
Et puis, pas passoire thermique, j'imagine.
Et c'est ça, ouais. Du coup, ouais. Et on est chauffé avec la déchetterie d'ici les Moulineaux. Pour du coup, chauffage responsable, oui. Donc ouais, et du coup moins cher. Et tout, hein, c'est la totale, hein, c'est l'eau, l'électricité. Oui, on va y aller.
Donc voilà. Donc non, très, très bon quartier, on est très contents. Pour l'instant, on ne veut pas bouger, nous.
La Smart City est-elle celle du bon sens? Sommes-nous prêts à être chauffés par une déchetterie? Il en était hors de question, mais quand il a vu les tarifs, cette pince de Mathieu Noël a carrément racheté la déchetterie pour chauffer ses locataires. Lui, il sort d'un bâtiment culturel au milieu de ce quartier, pas comme les autres.
Bonjour.
Est-ce que je peux avoir votre... Ah bah, j'ai votre prénom, vous avez un badge.
Exactement.
Johan.
Johan, exactement, enchanté.
Vous faites quoi dans la vie, vous?
Alors, je suis ludothécaire au centre ludique de Boulogne-Billancourt.
La médiathèque, le lieu de vie et culturel au cœur de ce quartier du Trapèze de Boulogne-Billancourt, une chose l'a frappé en arrivant il y a quelques années.
Ce qui frappe la première chose, c'est surtout la végétation au début. C'est agréable de passer ici. On sort un peu de la ville très dense pour arriver dans une zone où voilà, il y a des petits arbustes, il y a ces petites rigoles où il y a de la terre, des fleurs. Donc c'est assez agréable et assez vivant par rapport à d'autres quartiers qu'on peut connaître où c'est plus bétonneux et moins végétal.
Et ça compte dans son quotidien. Il le voit.
Ouais, je pense que je sais que les gens sont généralement plus content de vivre ici parce que voilà, il y a tout à proximité et encore une fois, bah, pour cette verdure et cette joie et le fait qu'il y ait que des jeunes couples finalement qui sont installés là.
Ça... Il y a une atmosphère particulière.
Il y a une atmosphère particulière, ouais, totalement. Je pense à l'avenir, il va falloir que ça soit écologique de toute façon. Je pense qu'on tend vers ça. Les gens s'y intéressent et s'inquiètent de plus en plus. Peut-être un peu plus déconnectés et retourner un peu à des racines plus saines, je pense.
Il y a deux possibilités, c'est-à-dire que soit on a une ville du futur toute numérisée, soit...
Ouais, non.
Un juste milieu ?
Peut-être un juste milieu à voir, maintenant je pense que c'est pas indissociable l'un de l'autre.
Un équilibre de la verdure mêlée à de la technologie et à du bon sens, en tout cas Johan a raison. Aujourd'hui, choisir un lieu de vie agréable, cohérent avec nos idées et nos projections, c'est au cœur des discussions.
Merci Quentin. Vincent Calbeau, du bon et du moins bon dans le quartier du Trapèze à Boulogne-Billancourt. On fait quoi? On rase tout? On recommence? Non, vous avez dit c'est pas écolo. Oui.
Point de vue empreinte carbone, c'est pas très écologique. Ce que j'ai entendu en tout cas, c'est que habiter dans un éco-quartier, ça a un impact directement positif sur le pouvoir d'achat qui préoccupe tout le monde. Pourquoi? Parce que on vit dans des bâtiments qui sont presque passifs, qui sont très bien isolés et qui ont besoin d'être très peu chauffés en hiver et qui sont naturellement ventilés parce que la plupart des nouveaux appartements sont traversants. Mmh. Et on peut aussi y intégrer des énergies renouvelables, des fermes urbaines pour produire une partie de son électricité en autoconsommation, pour recharger par exemple sa voiture électrique qui est dans le parking. Mmh. Et on peut, grâce à la permaculture, produire jusqu'à presque 25 kilos de fruits et de légumes par mètre carré par an, qui peuvent être redistribués sous forme de food pack sur les paliers tous les samedis. Et donc finalement, ben, ça crée de la synergie. Et aujourd'hui, on veut créer cette écologie enviable. On veut que tout le monde, finalement, se mettre raccord entre ses idées et ses modes de vie.
Bon, ça, c'est un peu de l'utopie, on peut le dire quand même, c'est un peu un rêve.
C'est une utopie qui est en train de se concrétiser.
Oui, mais c'est vrai qu'on n'y est pas, la plupart des gens ne vivent pas comme ça. L'histoire du chauffage grâce à la déchetterie d'ici les Moulineaux, ça, c'est une bonne idée, on tend vers ça? Vous connaissiez ça?
Oui, bien sûr, donc c'est tout le défi de ma génération, de transformer les déchets en ressources. On a créé beaucoup de déchets, on a créé beaucoup de déchets plastiques. Par exemple, il y a un projet qui s'appelle Aquarea qui propose de recycler les déchets plastiques pour les imprimer en 3D. On a un autre projet, par exemple, à Montpellier, où on va venir réutiliser les eaux grises qui proviennent de la douche que vous prenez tous les matins pour venir irriguer les jardins et les potagers qui sont sur la toiture du bâtiment et dans l'îlot intérieur. Aussi, on va utiliser les déchets de biomasse qui proviennent des déchets agroforestiers pour créer finalement des chaufferies centralisées, mutualisées à travers tous les bâtiments d'un éco-quartier.
Une personne dans le micro-trottoir parlait de la Corée et du Japon. C'est vraiment des villes qui sont en avance ?
Alors, je dois dire qu'en Asie du Sud-Est, là où on a construit cette fameuse tour à Taipei, ils sont en avance. Pourquoi ? Parce qu'on a déporté toute notre industrie vers ces pays-là. Et après, on les a pointés du doigt en disant « Attention, vous êtes des méchants pollueurs ». Et eux se sont dit « Quoi ? Moi, je suis pollueur ? Eh bien, je vais vous prouver le contraire et on va faire les bâtiments les plus vertueux possibles ». Et donc, étant donné qu'ils ont un taux démographique qui explose, avec une très belle économie, ils ont les moyens de passer plus vite que nous à l'action et aussi, ils ont moins de patrimoine. Mais par contre, aujourd'hui, eh bien, l'enjeu, c'est vraiment de démocratiser, d'aller chercher les meilleures innovations qui se font dans ces pays et de les rapatrier ici en France.
Parce que c'est plus difficile, du coup, de construire une smart city autour d'un patrimoine déjà existant, comme à Paris, par exemple.
C'est plus difficile parce que notre patrimoine, on l'adore, on veut le préserver, mais en même temps, on sait qu'on ne pourra pas isoler un bâtiment haussmannien de l'extérieur, donc on va l'isoler de l'intérieur, on va perdre un peu de mètres carrés, donc peut-être qu'on va proposer à la ville de rajouter un étage supplémentaire pour, par exemple, proposer une chambre d'amis qui soit mutualisée divisé entre tous les habitants l'immeuble, plutôt que tous acheter un plus grand appartement avec une pièce.
Vous pensez vraiment qu'on est prêt à ça ? Quand on voit les réactions même des décisions d'Anne Hidalgo, par exemple, à Paris, vous pensez que la population mondiale est prête à partager une chambre d'amis dans tout l'immeuble ?
Oui, je pense qu'on est prêt à ça. On a compris que, par exemple, acheter une foreuse ou un appareil d'électroménager dont on ne se sert presque jamais et d'avoir cet appareil dans tous les ménages, ça ne sert strictement à rien. Par exemple, moi, je viens de Bruxelles et donc là, on a ce qu'on appelle les Fab Labs dans les immeubles, c'est-à-dire qu'il y a une foreuse, il y a une pelle, il y a des clous, il y a un marteau. Et tout cela est partagé pour tous les habitants de l'immeuble. Ça permet de baisser son empreinte carbone et ça permet aussi de mieux vivre avec ses voisins, de les connaître, de s'appeler par son prénom et de ne pas se fuir quand on se croise sur les paliers d'habitation.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Allons-y, ça fait tellement longtemps que j'en ai envie, baisons. Lorsque Quentin a prononcé ces mots dans l'open space tout à l'heure, Manon a eu très peur, elle s'est figée. Visiblement, elle ne savait pas que Baisons était une commune du Val-d'Oise entre Argenteuil et... Oui, bon, peut-être que j'ai ajouté un accent quelque part, à voir. Oui. En tout cas, Manon, ces tristes lacunes en géographie risquent de vous jouer des tours dans le Zoom Zoom Test.
Comme d'habitude, j'aurais
dit. Ah oui, un quiz qui va s'éloigner un peu aujourd'hui de notre thème des Smart Cities pour une raison assez simple. Cher Vincent, vous êtes déjà venu ici, vous faites quasiment partie de la famille, donc on vous le dit sans prendre de pincettes. Cyril, notre rédacteur en chef, il s'en fout des smart cities. Lui, ce qu'il aime, c'est la France des campagnes. La connexion au terroir dans les PMU de village, pas au Wi-Fi dans ses baraquons, comme il appelle les espaces de coworking. Il a donc emmené Quentin et Manon en pèlerinage aux antipodes des smart cities, découvrir les dumb cities, les communes avec un nom à la con, qui seront donc l'objet de ce quiz. Je vais vous montrer ce que c'est, moi, la France des régions. Montez dans le cache-caille, direction la vraie vie. Après 11 heures à écouter le best-of de YouTube, 11 heures durant lesquelles, pas une fois, Cyril n'a arrivera à prononcer « With or without you » correctement. Nos amis Nos amis arrivent enfin à destination. Quentin et surtout Manon, qui a vomi dans la boîte à gants à cause de la conduite virile de Cyril, font grise mine. Alors que Cyril, lui, est resplendissant. Un peu comme quand il sort du salon de massage Tenten, avenue de Versailles. D'après vous, pourquoi est-il si rayonnant? Parce que...
Oula,
il s'apprête à leur faire visiter la trique. Il s'apprête à les emmener du côté obscur de la force ou tout simplement parce qu'il sort de branlette.
Ah, je suis devant.
Je vous propose une autre réponse.
Bah B alors.
Ah bah non, bah AEC.
Je vous propose une autre réponse.
Les trois,
Quentin. Mais oui, Quentin connaît bien la France. Mais
et Cyril.
Et oui, la trique est une charmante bourgade des Deux-Sèvres. Branlette est en Haute-Vienne. La force, c'est en Dordogne. Imaginez ça, si ça match entre eux sur Tinder. T'sais. Et sinon, t'as grandi où? Oh, moi, je suis tricard. Et toi? Ah bah moi, je suis un branlot. Conscient que visiter la trique comme ça, sans prévenir, sans sas de décompression quand on vient du 11e, c'est éprouvant, Cyril décide alors de ramener Manon et Quentin dans leur zone de confort, un endroit rassurant où le latte est à 8 euros, ce qui est la base de la civilisation. Allez les bobos, montez dans le cache-caille, on va rendre visite aux clodo-aldiens. Pour Manon, c'en est trop. Des pecnos, je veux bien, mais des clodos,
non,
ça va
non.
Trop loin, je rentre à Paname. Mais elle se trompe lourdement, car d'après vous, qui sont les clodo-aldiens ? Des clochards qui s'habillent chez Aldi? Les habitants de Sainte-Claude, capitale de la pipe? Ou les habitants de Saint-Cloud, capitale des gens qui voudraient habiter Neuilly, mais qui n'ont pas tout à fait les moyens?
C'est B.
C'est
pas Saint-Cloud.
Non, c'est B.
C'est pas
Saint-Cloud, non.
Manon, la géographie, Manon.
Ah
mais
ouais,
vous avez des bonnes notes en géographie? Vous avez combien au bac?
Non, au bac, histoire géo, que j'ai eu 14, ça va.
14?
Oui.
Vous mentez.
Bah, j'étais en majeure histoire.
En trichant, comme le quiz.
Ah, au bout d'un moment.
Elle est vraiment nulle.
J'avais une carte.
Elle est nulle et pourtant, c'est la bonne réponse. Oui,
magnifique.
Mais oui, les clodo-aldiens ne sont pas à la rue. Ils se portent généralement assez bien, moins bien que les Neuilliens, mais pas trop mal quand même, vu qu'ils crèchent à Saint-Cloud. Mais attention, car votre beau périple à travers la France des dumb cities n'est pas terminé. Cyril a encore du gasoil dans le cache-caille, comme il dit parfois dans l'intimité à Madame la Carrière, pour lui signifier qu'il est opérationnel.
Non,
d'ailleurs, Manon,
Quentin,
au moment où vous bouclez votre ceinture, Cyril s'exclame « Allez, tous à poil !»
Oula.
Que convient-il de faire ? Descendre au plus vite du véhicule, prévenir les ressources humaines de France Inter, ou faire confiance à Cyril ?
Les trois.
Oui, vous pourriez ?
C'est vrai?
Oui, non, il faut pas descendre du véhicule. C'est la bonne réponse, Quentin. Effectivement.
Un peu B aussi.
Car dans sa célèbre chanson, trop souvent dépeinte comme vulgaire par les ignares en géographie, Patrick Sébastien nous invitait en fait à visiter Poil, une charmante commune de la Nièvre située sur le flanc nord du Mont Beuvray. On est à 14 km de Luzy, 33 km de Château-Chinon et 372 km de l'ultime étape de notre trip, Bonny-sur-Loire. Mais attends Mathieu, pourquoi on s'arrête à Bonny-sur-Loire? C'est pas drôle comme nom, on préférait la trique. Manon, vos propos n'engagent que vous. Effectivement, Bonny-sur-Loire n'est pas le nom de patelin le plus fandard de ce quiz, mais ce serait oublier de poser la question importante, la seule qui compte. Comment s'appellent les habitants de Bonny-sur-Loire? Les Bonny-Bar? Les Bonnichons?
Oh là là là.
Ou les Bonnie and Clyde?
Ah.
Ah ouais? Ouais, bah, ah, bon, bah. Les Bonnibar. Ah, moi je vais. Les Bonnichons. Allez, B.
Bonjour, je suis Bonnichon. C'est une bonne réponse de Quentin Louis-Oui.
Et Bonnichon?
Bonny-sur-Loire et ses Bonnichons, bien sûr. Ils ont le contact facile, nous dira Cyril. Oh, enfin, justement, faisons fi de la gaudriole et de la galéjade facile auxquelles nous avons un peu trop cédé aujourd'hui. Revenons aux belles lettres. Je vais vous lire un poème de Moncru, c'est du Rimbaud qui aurait passé un peu trop de temps sur Europe 1. À chaque vers, vous devez me dire quelle est la commune qui se cache dans mon cœur. Lorsque le beau soleil darde ses derniers rayons, et que du cache-caille, Cyril ouvre le haillon, exposant son corps nu à Quentin et Manon pour leur déclarer sa flamme. Et maintenant, baisons.
Hein? J'ai pas compris. Il faut faire quoi?
Qu'est-ce qu'on doit dire?
Échec, échec de ce concept. Non, bah, c'est Gérald Bonauteur qui a eu l'idée de finir sur quelque chose de plus complexe. Ouais. Vous deviez détecter dans chaque vers le nom d'une ville.
Bah, Baison, ah, bah, du coup.
Mais il n'y en a pas qu'une.
Ah bon?
Il y avait Beausoleil, Haillon, écrit pas comme on l'a
voiture, okay.
Cornu, C-O-R-P-S, nu, N-U-D-S.
Même notre invité l'a pas compris.
Vincent, n'aggravez pas leur cas, c'est eux qui sont nuls. Du coup, je donne la victoire à Quentin qui n'a pas trop démérité aujourd'hui.
Non, non, merci. Gérald s'est caressé en faisant le quiz.
Il est retombé dans la chenouille.
Il a arrêté la co. Ah, non.
Ben voilà, il est retombé dedans.
Que pauvre.
Qu'est-ce qu'une smart city? À quoi va ressembler la ville intelligente de demain? On en parle cet après-midi avec notre invité, l'architecte Vincent Calbeau. Vincent, on parlait de vos projets pour Paris. Il y a un dossier qui reste assez brûlant, c'est celui des transports. Comment les nouvelles technologies, les data, l'IA, tout ça va pouvoir permettre de fluidifier la circulation?
Et donc, pour faire le lien avec le quiz juste avant, on parle beaucoup de Smart City et peu de Smart Village. Ah. Et en fait, aujourd'hui, la dématérialisation de nos modes de communication et de travail a permis l'explosion, justement, du télétravail. Et donc, on peut plus travailler, finalement, dans les villages. Et les villages que ma génération, on a un peu abandonnés, on doit dire, eh bien, souvent, eh bien, ils sont construits en matériaux naturels. On est en pleine nature et les gens ont repris goût à y vivre. Par contre, ça crée de la tension dans les mouvements de circulation le vendredi soir et le dimanche quand on revient dans les grandes villes pour travailler. Et aujourd'hui, nous, on essaye de militer finalement pour démocratiser au maximum les transports en commun électropartagés. Par exemple, à Paris, on a libéré les quais pour les rendre aux piétons et c'était une super idée. Et par contre, on n'a pas tout de suite proposé une alternative de transport. Et on s'aperçoit, par exemple, en travaillant sur le projet Mantaret à Séoul, qui est un terminal flottant pour des ferries électriques et qui dit ben voilà, finalement toutes les plus belles capitales européennes, elles sont traversées par des fleuves. Pourquoi est-ce que ces fleuves sont seulement empruntés par des bateaux mouches, c'est-à-dire par des bateaux de tourisme, et on pourrait très bien y créer un transport fluvial démocratique qui traverse tout Paris d'est en ouest.
C'est dans les tuyaux ça?
C'est pas encore dans les tuyaux à Paris, mais ça l'est dans différentes villes, et notamment à Séoul où on travaille, et où on propose aussi de renaturer les berges en venant les débétoniser pour faire en sorte de lutter contre les crues du fleuve.
Après, Manon. Séoul, pour y avoir été cet été, c'est très très grand comme ville, là où Paris, c'est quand même beaucoup plus petit.
Effectivement, mais finalement, ce sont les mêmes logiques qui sont proportionnelles au nombre d'habitants. À Séoul, on a 28 millions d'habitants, on a le fleuve Han, qui a une crue de 5 mètres, mais on a les mêmes problèmes là-bas que ceux qu'on a eu à Valence il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est d'essayer d'infiltrer au maximum les eaux pluviales dans les nappes phréatiques pour rendre la ville moins vulnérable au phénomène de fortes crues.
Il y a un urbaniste que vous connaissez forcément, Carlos Moreno, qui était avec nous il y a quelques jours pour nous parler de son concept « La ville du quart d'heure », tout à moins de 15 minutes de chez soi. Ça, c'est smart? Ça rentre dans le projet?
C'est smart et ça existait dans tous les villages de nos grands-parents. Nos grands-parents, ils allaient chercher leur pain en vélo, ils n'avaient pas besoin d'une voiture, de faire 20 km, et ils avaient leur lieu de travail à côté de leur lieu de vie familiale. Et finalement, cette proximité urbaine, le fait d'être à moins de 15 minutes à vélo ou à pied, qui viennent distribuer toutes les aménités qui rythment notre journée, on essaye de le remettre dans nos villes. On essaye de rapatrier cet esprit de village dans tous les quartiers de Paris.
Question très importante, parce qu'Elon Musk nous écoute chaque après-midi. Est-ce que la voiture autonome, la voiture sans chauffeur, c'est l'avenir ou c'est plus l'avenir finalement?
La voiture autonome, elle est en train d'exploser, notamment en Chine et dans la Silicon Valley aux États-Unis. On peut prendre des taxis sans chauffeur quand on va à San Francisco, quand on va à Shenzhen, quand on va à Hong Kong, quand on va à Shanghai. Et finalement, on constate qu'il y a moins d'accidents. On constate aussi que le trafic est plus fluide parce que finalement, aussi par biomimétisme, les ingénieurs, ils ont par exemple analysé comment les fourmis ne créent jamais de bouchons pour rejoindre leur fourmilière et transporter leur nourriture. Et ils se sont dit, tiens, on pourrait optimiser les flux, on pourrait optimiser les feux de signalisation pour faire en sorte que, grâce à ce transport autonome, le trafic se fluidifie.
Le biomimétisme qu'on explique, c'est s'inspirer de la nature pour reproduire à l'échelle humaine un bon fonctionnement.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est s'inspirer des formes, des structures et de toutes les boucles de rétroaction qui existent dans la nature. La nature qui, pour rappel, n'émet aucune pollution, ne produit aucun déchet, mise toujours sur la coopération entre les espèces et limite toujours les excès provenant de l'extérieur.
Et on parlait d'expérimenter les taxis volants aussi à un moment donné. Ça en est où, cette histoire?
Alors, par exemple, dans le livre, on a dessiné ce qu'on a appelé un chapitre Timber Mobilities, qui est dédié en fait aux bus du futur. Et pour nous, on pense qu'on va avoir des bus volants qui vont s'inspirer des eVTOL, c'est-à-dire des bus à atterrissage et à décollage verticaux, qui vont plutôt servir justement à atteindre très rapidement des zones touchées par des grands accidents climatiques. Ou, par exemple, à Paris, on pourrait imaginer des bus flottants sur hydrofoil, c'est-à-dire des bus qui touchent à peine la surface de l'eau pour pouvoir justement rejoindre le 13e et le 16e arrondissement beaucoup plus vite.
Ça serait pratique.
Ça va nous changer de 72.
Ça n'a aucun intérêt pour Manon qui ne franchit jamais, elle ne quitte jamais la rive droite.
Non, mais par contre, d'aller de la maison de la radio à chez moi, aller sur la Seine, ça serait pas mal.
La Seine est sous-exploitée.
Et donc, le but de ces véhicules, c'était de proposer des véhicules légers qui ne soient pas construits en métal et en acier, mais bien en fibres végétales provenant des déchets agricoles.
On en apprend tous les jours. Et j'ai envie de dire, on en apprend tous les jours, surtout dans Zoom Zoom Zen. Et on en apprend encore plus avec vous, Manon, puisque tous les jours, vous nous indiquez la personne à suivre.
Je vous présente Adam Greenfield. Il a 56 ans, il est américain, il est urbaniste et il est connu pour ses prises de position contre les smart cities. Car Adam Greenfield a pour particularité d'avoir commencé sa carrière en tant que développeur de logiciels et concepteur d'interface, donc directement dans les entreprises de la tech. C'est d'ailleurs ce qui lui a donné l'envie de se tourner vers une réflexion sur comment les technologies influencent nos environnements et nos vies. Il a notamment été responsable de la direction de la conception des interfaces chez Nokia et en 2010, il est revenu à New York pour fonder une entreprise de conception de systèmes urbains appelée Urban Scale. Mais Adam Greenfield s'est surtout fait connaître pour son livre « L'ère naissante de l'informatique omniprésente », un livre qui explore la montée de l'informatique et surtout la manière dont elle façonne notre perception de l'espace public. Greenfield décrit comment la technologie allant des capteurs aux dispositifs connectés transforme notre manière d'interagir avec l'espace urbain et notre environnement personnel. Il met notamment en garde sur la protection de la vie privée et la surveillance de masse. 7 ans plus tard, il poursuit sa réflexion avec le livre qui nous intéresse le plus aujourd'hui, Against the Smart City, contre les Smart Cities. Le titre est on ne peut plus explicite, plus qu'un livre, c'est un essai dans lequel il critique la vision de ces villes dites intelligentes dont on vient de parler. Il dénonce l'idée que la technologie seule puisse résoudre les défis urbains complexes et souligne que ces projets intelligents risquent de renforcer les inégalités sociales et de réduire la capacité des citoyens à participer à la vie de leur ville. Pour lui, on ne peut pas automatiser la complexité de la gestion d'une ville ou la prise de décision. Adam Greenfield plaide pour un modèle de ville qui valorise la participation démocratique, l'inclusivité et la mise en place de solutions centrées sur les personnes. Sa philosophie en tant qu'urbaniste, c'est améliorer la qualité de vie de tous et non la contrôler.
Merci Manon. Vincent Calbeau, est-ce que les smart cities font débat? Vous nous dites souvent « ma génération ». Est-ce que votre génération d'architectes, vous êtes tous unanimement d'accord sur ce que doit être déjà une smart city?
Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que la technologie ne va pas nous sauver, sinon on serait déjà sauvés. Et on s'approche de plus en plus du mur. Donc effectivement, il faut essayer d'être le plus sobre possible, le plus résilient, utiliser un minimum de matière pour construire, être très sobre également d'un point de vue foncier. Il faut savoir par exemple qu'en France, on construit 2 fois la superficie de Paris intramuros en venant prendre des terres sur les terres agricoles, les terres forestières ou les écosystèmes naturels. Donc aujourd'hui, c'est toujours ce leitmotiv de faire faire mieux avec moins. Ensuite, aujourd'hui, il y a deux grands mouvements dans l'architecture et dans l'urbanisme. Il y a d'un côté le low-tech, c'est-à-dire travailler avec des matériaux qui ne sont pas transformés, comme par exemple construire en bois massif, isoler sa maison avec de la laine de bois qui provient des scieries, produire par exemple son énergie avec une éolienne dans le jardin ou des panneaux solaires sur le toit, et donc avoir quelque chose de très sobre. Et ensuite, il y a le tout high-tech, qui est un peu aveuglant, parce que finalement, on croit que via notre smartphone, on va sauver le monde. Et on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit entre le low-tech et le high-tech, c'est les processus de démocratie participative. Par exemple, à Aix-les-Bains, on a remporté la métamorphose des termes nationaux, parce que le maire a dit « Moi, je ne choisis pas durant le concours international quel est le projet le plus vertueux. Je vais laisser choisir la population quel projet leur semble le plus adapté à leur ville. » Un autre projet à Lille, où là, avant le premier coup de crayon, on a travaillé, on a fait des think tanks, des ateliers avec les habitants du quartier pour leur demander qu'est-ce que vous aimeriez ? Plus de végétal, une crèche supplémentaire, des espaces de sport, des espaces de bureaux réversibles en logement. Et on a co-construit le programme avec eux pour faire en sorte de couturer parfaitement l'architecture au désir des habitants.
C'est plus l'architecte qui impose de haut, qui dit « moi j'ai une vision, je vais faire ça ».
Ça c'est fini depuis 15 ans. Ouais. Les stars architectes sont loin de nous.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Lui, il est originaire de la plus en pointe des smart cities françaises, Lourdes. Une ville qui a réussi à se passer totalement des caméras pour surveiller l'espace public, puisque là-bas, c'est Dieu, en personne, qui surveille les rues. Et en même temps, comme le carjacking de fauteuil roulant est encore rare, c'est assez calme. Bonjour Pierre Corral.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Pierre, c'est l'heure de votre petit carnet de Zoom Zoom Zen, le résumé de tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et cet après-midi, les smart cities, les villes intelligentes, un terme à la mode dans les années 90, quand on pensait que tout allait être résolu grâce au numérique, aux data à l'internet. Bizarrement, le Minitel ne faisait déjà plus partie de l'équation. Aujourd'hui, quand on parle de Smart City, c'est pour expliquer comment la ville peut devenir plus intelligente tout en préservant l'environnement. Une donnée pas totalement prise en compte à l'époque de Bill Clinton, l'un des premiers à avoir parlé de Smart Cities. Ouais, Bill Clinton, Minitel, rassurez-vous, nous sommes bien en 2024. On ne parle pas non plus des Smarties, mais des Smart Cities.
Oh voilà. Il voulait la placer.
Je voulais, ouais. C'est Marie de Breuer qui m'a un petit peu poussé. Hein. Ainsi, notre invité, par exemple, l'architecte Vincent Calbeau utilise aujourd'hui les données numériques et l'intelligence artificielle pour calculer l'orientation des immeubles. Il tire profit au maximum de la lumière et de la chaleur du soleil, ainsi que des sens du vent pour créer une architecture intelligente, performante, jusqu'à atteindre une certaine autonomie économique et énergétique. Construire mieux avec moins. La Smart City de 2024, c'est une ville qui utilise les nouvelles technologies pour bâtir, mais aussi pour anticiper les flux et réduire, le cas échéant, la place des véhicules polluants, quitte à proposer de nouveaux moyens de transport, comme des bus volants ou des bus flottants, le tout, et c'est très important, sans se couper des besoins des habitants. Notre invité cite Shakespeare, l'intelligence d'une ville, c'est celle de ses habitants. C'est beau, on dirait du Quentin Luy, et c'est l'autre visage de la Smart City d'aujourd'hui. Construire, mais dans le dialogue, afin de passer d'une écologie punitive à une écologie désirable.
Il est 17h05, c'est bien.
Écoutez, il y avait beaucoup de choses
tout
à
suite,
dire
hein,
sur ce
sujet. Synthèse. Merci, mon cher Pierre. Ne les écoutez pas.
Mais oui,
pourquoi
vous
Cyril
êtes
est bougon aujourd'hui. Il a mis son chandail. son chandail de personne du troisième âge.
Chandail d'amarre, je crois.
Merci beaucoup, Pierre.
Au
moins, c'est moderne.
Il devait manquer des nuggets aussi dans votre boîte.
Oui, il lui manquait. Non, il était très content de son. Pour finir, on part dans le futur, peut-être avec Anne Hidalgo, mais surtout avec Lilia Ben Chaban.
Et oui, alors on parle des smart cities, des villes intelligentes. Alors moi j'ai regardé la définition sur internet et l'antithèse de ville intelligente c'est Anne Hidalgo. Et oui, parce que ce n'est pas parce qu'on est sur France Inter qu'on ne peut pas faire des éditos dignes de RMC.
Ah oui, je vois ça.
Alors, le principe de la ville intelligente, c'est le futur. Vous allez voir, c'est se servir de l'intelligence artificielle au profit du fonctionnement de la ville, comme par exemple la gestion du trafic routier. Et oui, Jamy, naturel. Via des capteurs à intelligence artificielle, on peut analyser les bouchons et en fonction, on peut réguler les feux de circulation. Pour le trafic, oh là là, le futur. Eh bien, le futur, moi, je trouve ça très chiant. Parce qu'à la base, on avait promis des voitures volantes. Voilà. Donc j'ai l'impression de m'être fait arnaquer par le futur. Alors, à Paris, tu peux pas réguler le trafic parce qu'il n'y a pas de trafic. Hein. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour analyser la circulation. Il suffit juste de regarder par la fenêtre. Eh bah ouais, petit point route, eh bah c'est bouché, voilà, c'est bouché, puis les gens s'insultent. J'ai bien fait d'être intermittent du spectacle pour ne jamais sortir de chez moi. Alors, la Smart City par excellence, c'est Singapour, hein, qui utilise des technologies de pointe et l'intelligence artificielle pour gérer, par exemple, ses outils administratifs et aussi son réseau de transport, mais aussi pour exploiter des employés dans des petites usines insalubres, bah ouais, et se torcher avec le code du travail, oups. Alors, pourquoi nous, on n'a pas ça en France? Eh bah parce que pour que ça marche, il faut qu'on ait des gars à la tête de ces villes et ces pays intelligents. Bah, puisque là, on ne va pas sans l'antre et tout est dans le nom, en fait, c'est simple. Alors, pour la gestion administrative, nous, on a Cathy, fonctionnaire à la mairie au service état civil. Dernière femme en France à faire des permanentes chez Assertif. Salon de coiffure de sa copine au Micheline. Eh ben ouais, désolé, j'ai pas fait les cours Florent. Du coup, le seul truc que je maîtrise, c'est l'accent marseillais. Alors, tu peux renouveler ton passeport, mais si tu veux renouveler ton passeport, il faut que tu ramènes l'ancien passeport. Et ensuite, il faut que tu viennes chercher un dossier que tu vas remplir. Et tu vas revenir avec le dossier rempli et puis avec les photos conformes. Vous suivez? Oui, parce que c'est pas terminé. Ensuite, il va falloir que tu repartes et que tu reviennes pour faire une empreinte digitale et ensuite il va falloir que tu repartes et que tu reviennes dans 3 semaines pour récupérer ton passeport. Dans 3 semaines, si et seulement si, il n'y a pas de retard. Ouais, parce que Marie, la collègue de Cathy, elle est en arrêt maladie, elle a fait un burn-out. Voilà. Je souffle. Alors Cathy, c'est la seule personne qui a réussi à me faire envier les sans-papiers. Je vous jure, Souleymane, t'es pas français, eh ben t'as bien de la chance. Voilà. Moi, je vous le dis, j'en veux plus de votre passeport. Je vais vendre mes pieds sur OnlyFans et je vais me barrer à Dubaï et je vais épouser un Émirati qui, lui, m'offrira un passeport. Voilà. Et puis en plus, nous, on n'aime pas le changement. Hein. On nous a mis 4 caméras à reconnaissance faciale pendant les Jeux Olympiques et tout le monde a pété un câble. Ces mêmes personnes qui se mettent H24 en story et qui ajoutent leur localisation. Va t'en comprendre. Mais nous, on a quand même des concepts uniques en France de ville. On a par exemple The Hidalgo City. Et alors là, c'est quelque chose. Hein. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est du je vous emmerde officiel. C'est ma ville, je fais ce que je veux. Et ça, c'est un concept original. Parce que est-ce que vous pensez qu'il existe beaucoup de pays dans le monde dans lesquels on a des villes où les maires chient sur leurs citoyens comme Madame Hidalgo, hein? Alors si Otakos cartonne autant, est-ce que vous savez c'est pourquoi? C'est parce que Anne Hidalgo, elle s'enfile 40 tacos, 5 viandes, sauce fromagère par jour pour bien nous chier dessus continuellement.
Anne, si tu nous écoutes.
Si. Et c'est sur cette vanne bien moins intelligente que les villes que je vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci Anne, continuez d'écouter France Inter. Merci Lilia Benchaban, on vous retrouve très vite.
Je vous ai fait perdre un auditeur.
Oui, oui, une auditrice effectivement, peut-être même toute une équipe à l'Amérique qui nous écoute. Ils nous écoutaient ensemble, comme ça, pendant la pause.
Religieusement, bien sûr.
Pendant la pause, et les pauses sont longues à l'Amérique. Bon, bref, merci Vincent Calvaud de nous avoir éclairé sur l'avenir de la ville intelligente. Je rappelle que vous n'avez pas fait le voyage pour rien, puisque vous avez signé hors antenne un très beau contrat à 7 chiffres avec Quentin pour construire entre Sienne et Florence le Louise Paradise. 600 mètres carrés, bassin d'agrément, garage pour 30 véhicules, héliport végétalisé et statue d'Ayrton Senna dans l'allée centrale. J'espère qu'on sera invité à la crémaillère.
En bronze,
en bronze, en platine. Zoom Zoom Zen.